Les nuits de France Culture, 1h, 6h du matin. Parfois dialoguiste, quelque temps producteur de radio, et toujours passionné par l'art lyrique. Et puis aussi auteur pour le théâtre, directeur d'un grand opéra, et metteur en scène, et musicologue, etc., etc. Et puis, Marseillais. Rediffusion d'une mémoire du siècle, proposée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1991.
Mémoire du siècle. Louis Ducreux. Nous avons tous en mémoire l'interprétation superbe de Louis Ducreux dans le film de Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne. Et je crois bien que le touchant personnage de Monsieur l'Admiral n'est pas sans ressemblance avec l'interprète. Mais Louis Ducreux n'est pas seulement comédien, et s'il a créé de nombreuses pièces, dont Amstram Graham et Une grande fille toute simple de son ami André Roussin, s'il a réalisé d'importantes mises en scène et adaptations, il est aussi auteur dramatique. 14 pièces à son actif, dont La part du feu, L'amour en papier, Un souvenir d'Italie, Le diable à quatre. Un théâtre à redécouvrir, drôle, psychologique, où chaque pièce c'est le développement d'une idée toujours originale et surprenante, avec quelquefois, comme dans Le square du Pérou ou L'amour en papier, une partition musicale et quelques couplets qui donnent alors à l'œuvre une séduction supplémentaire. Car Louis Ducreux est aussi compositeur et l'auteur de quelques chansons qui eurent leur célébrité, La rue s'allume, La ronde, écrite pour le film de Max Ophuls. C'est sans doute sa très grande culture musicale et son éclectisme intellectuel qui le conduisirent à prendre à partir de 1961 la direction de l'Opéra de Marseille, puis de l'Opéra de Monte-Carlo ensuite, où il fut un animateur exigeant et un metteur en scène brillant, dont le travail et l'influence furent louangés par toute la profession. Il faut dire encore que Louis Ducreux est l'auteur d'un roman très savoureux, La porte tournante du Café Riche, édité chez Robert Laffont. Enfin, Louis Ducreux a l'élégance de savoir tout faire et de tout faire avec élégance.
Louis Ducreux, vous n'avez pas gardé beaucoup l'accent marseillais, qui est celui de votre enfance.
Étant donné que j'ai commencé à faire du théâtre en 1930, j'étais assez jeune, j'ai perdu mon accent. J'ai eu le temps de le perdre et en travaillant ma diction, je n'avais plus d'accent du tout. Mais je peux le prendre quand je veux, vous comprenez? Ça ne me dérange pas. Mais je n'avais pas un accent comme ça. Ça, c'est l'accent exagéré un peu. L'accent de Marius. Mais je n'ai eu aucune peine à le perdre. Mais là, j'ai vraiment perdu. Alors et je retrouve, ce qui est très agréable.
Alors, vous êtes né donc à Marseille.
Je suis né à Marseille en 1911, c'est-à-dire que je suis dans ma 80e année.
Ouais. J'aimerais que, pour commencer, vous ayez la gentillesse de m'évoquer un peu le Marseille de votre enfance.
Ah, le Marseille.
Avec les odeurs, les bruits.
Les bruits étaient énormes. Il y avait les tramways qui faisaient un bruit infernal parce qu'ils avaient leur marque comme avaient les trains avant aussi, tac-toc, 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 vous savez. Lorsque les rails avaient tendance à chauffer, ils gonflaient, il fallait donc un espace entre chaque segment de rail. Et ça faisait un grand bruit dans Marseille, dans ding-ding-ding. En plus, il y avait les klaxons qui étaient très actifs sous n'importe quel propos. Voilà, ça c'était un peu les bruits. Ils étaient comme ça, les klaxons, à ce moment-là. Ils sont légèrement modifiés maintenant. Je ne dis pas qu'ils sont plus silencieux, mais enfin, ils ne sont pas agressifs comme ça. Ça avait l'air d'engueuler les passants. Et je crois que c'était le but poursuivi. Les odeurs, c'était des odeurs, souvent, quand elles n'étaient pas carrément mauvaises, elles étaient aliasées. Et moi, j'aime beaucoup l'odeur de l'aïoli parce que j'y suis né. Le vendredi, et le vendredi saint encore plus, on mangeait un aïoli parce que la viande était prohibée par l'Église. Les gens suivaient l'Église en boitillant, mais ils gardaient la tradition. Et au fond, on se tapait la cloche le vendredi, et même le vendredi saint. Mais sans y penser, il était entendu qu'on ne mangeait pas de viande, et simplement du poisson, alors un excellent poisson. À cette époque, il y avait un poisson extraordinaire à Marseille. Ça a bien changé, on ne trouve presque plus de poisson, ou du moins de poisson aisément comestible.
Est-ce que Marseille était une ville gaie dans votre enfance ?
Extrêmement gaie, c'est-à-dire que les gens plaisantaient surtout, ne prenaient rien au sérieux. C'est le souvenir que j'en ai gardé. Surtout par contraste à une époque où moi je prenais les choses très au sérieux. J'ai constaté que les gens, ils aimaient rire vraiment, rire et plaisanter. Ce n'est pas une fausse réputation qu'on leur a faite. Hein.
Et est-ce qu'on plaisantait en français ou est-ce qu'on plaisantait en provençal ?
Ah, ça c'est assez difficile. On plaisantait, on parlait français, bien sûr. Dans la société un peu huppée de la ville. Mais dans la rue, aussi souvent que le français, j'entendais des phrases en provençal. Les gens parlaient deux langues, n'est-ce pas ? Le français et le provençal, ils sont très proches l'une de l'autre, il faut bien dire. Mais enfin, quand même, avec des différences, dont Mistral était un exemple, avait repopularisé, parce qu'il était en baisse, le provençal. Et sous l'influence de Mistral, c'est vrai, ça a l'air idiot, mais c'est vrai pourtant, qui était un écrivain sûrement de grand talent, mais en provençal, bien, ça avait repris. Il y avait partout des cercles provençaux. C'était des gens qui avaient leur idée sur les choses et puis qui aimaient bien n'être pas compris des purs francophones.
Est-ce qu'ils voulaient...
Et de faire des réflexions quelquefois moqueuses, sinon désobligeantes, sur les autres personnes qui... Pour qui ça s'appelait parler pointu par les Français. Et alors, on parlait, on imitait les gens qui parlaient français, on les imitait très mal, comme ça, n'est-ce pas ? Et ils se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux tant qu'ils pouvaient.
Est-ce voilà. qu'il vous revient quelques morceaux de Mistral en provençal que vous
Ah
auriez...
non, malheureusement pas, parce que moi je ne parlais pas provençal. Par exemple, on jouait le dimanche après-midi, pendant 15 jours par an, je crois que c'était l'époque de la Passion. Non, il y avait d'abord l'époque de Noël, où on jouait partout en provençal, uniquement en provençal, une histoire de la naissance de Jésus vue par des provençaux, c'est-à-dire un petit garçon qui naissait dans le désert de l'Algérie, disons, qui tout d'un coup faisait des miracles et tout le monde était en admiration. Et trois rois lui rendaient visite. Il y avait un roi noir et deux rois blancs qui venaient à peu près de l'Afrique occidentale. Si je me souviens des costumes, ils ne visaient pas tellement au réalisme, mais enfin, ils voulaient évoquer ça et c'était très bien. Ils venaient donc tous les trois s'agenouiller devant le petit Jésus. Et là, comme tout le monde parlait provençal, ça allait très bien. On comprenait quand même tout ce qui se chantait. Il y avait un rôle comique qui s'appelait Bartoumiou. Bartoumiou, c'est Barthelmy, qui avait horreur de se prodiguer. Et il avait 5 ou 6 gilets, je me rappelle, sous sa veste. Il enlevait sa veste. Allez, mettons-nous au travail. On se met au travail en provençal. Mettons-nous au travail. Et lui, il enlevait sa veste. Puis il défaisait son premier gilet, son deuxième, son troisième, son dixième. Et le travail était fini quand il était là. À Coesio, j'ai fini. Je peux prendre le travail avec vous. Il est fini. Très bien. Alors il remettait ses gilets. Bon, je revois ça parce que c'était une parodie d'un certain type de provençal qui ne brillait pas par son activité, un peu endormi, bon. Mais ce n'était pas tous les provençaux, au contraire, les autres, ils étaient « Ah, comment tu vas ? Dis, il y a longtemps qu'on t'a pas vu, mais en provençal, bien sûr. »
Louis Ducreux, je voudrais que vous me parliez de votre papa, qui est un homme qui vous a ouvert au monde de l'art.
Oui, lui-même n'était pas très intéressé par l'industrie dans laquelle, comme moi-même plus tard, on a voulu dès alors le lancer. Et il était très séduit par l'art lyrique, qui encore plus que maintenant était à la mode. Et il chantait énormément, il chantait très bien. Il avait une belle voix de baryton qu'il a assez rapidement assourdi avec de nombreuses cigarettes. Sport dans lequel je lui ai succédé, comme vous pouvez le constater. Peu à peu, il a renoncé à faire du théâtre, alors qu'il avait des chances d'y réussir très bien. Il avait une très belle voix. Moi, je l'ai connu encore quand il avait une très suffisante voix pour remplir la maison dans laquelle on habitait à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'il chantait ? Qu'est-ce qu'il fredonnait ?
Ah, il chantait tous les opéras. Je les ai appris par lui, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup servi plus tard lorsqu'on m'a demandé de prendre la direction de l'Opéra de Marseille. M. Defferre m'a demandé ça, de toute façon, chercher un directeur.
Vous avez des souvenirs de l'opéra
oui.
Pendant la guerre de 14 ou après ?
Après, l'Opéra de Marseille, oui. Après, oui. Avant, j'y allais peut-être, mais j'allais surtout au spectacle plus gai, car mon père aimait tous les spectacles. C'était la comédie, il y avait des tournées, qui avaient des représentations pratiquement parisienne, et puis la danse, il aimait tout, vraiment tout, il était tout le temps, mais il préférait à tout l'opéra, bien sûr.
Il me semble qu'en 1919, je crois, l'opéra de Marseille a...
Ah, il a brûlé, oui. Ouais. Il a brûlé, je ne sais pas pourquoi, mais on en a reconstruit un autre assez luxueux, très luxueux même, qu'un architecte de la ville, dont j'oublie le nom de famille... Ah non, il s'appelait Gaston Castel. Gaston Castel était revenu de la guerre de 18, très blessé. Il avait une joue qui était à moitié emportée, c'est ça. Il sait qu'il varie comme ça, il ne pouvait pas varier autrement, avec l'accent marseillais en plus, bien sûr. Mais c'était un personnage très joyeux et très moderne. C'est un des premiers opéras en ciment armé qu'on ait construit. Il ne voyait les choses que construites en ciment armé. C'est l'époque où on commençait à construire en ciment armé, vers 1917-18-20, par là. C'est en 20 que son opéra a été fini. Il est toujours existant à Marseille, moitié classique, avec des colonnades, et moitié moderne. Ça, c'est sur les côtés où on voit les fenêtres... les loges des acteurs et pas mal de choses. Enfin, c'est très, très brillant. Dans un quartier qui était, je ne veux pas dire populaire, mais dont la popularité était due surtout à l'abondance de l'élément féminin qui froufoutait comme ça.
Vous avez eu donc une formation musicale pendant votre adolescence, puis c'est à cause de votre papa.
Une formation musicale. Par Louis, oui, surtout. J'ai appris le piano après, à l'âge de 6 ans. Et je jouais toujours beaucoup de piano, jusqu'à il y a 10 ans.
Ducreux, j'aimerais que vous me racontiez comment ce jeune homme qui a eu une éducation musicale, lyrique, dans une famille assez aisée de Marseille, en est arrivé à avoir l'envie de monter une troupe de théâtre.
Ah ben c'est une envie héréditaire. Mon père n'aurait pas monté une troupe de théâtre, mais aurait certainement chanté à l'opéra s'il avait suivi sa première vocation qui était de chanter sur scène. J'allais voir tous les spectacles auxquels il me conduisait, et presque tous, donc. Enfin, sauf les revues de musical, si pourtant, même j'en ai vu. J'ai vu Gaby Delice en 1919, dans un cinéma qui s'appelle maintenant le Capitole, mais qui était aménagé en théâtre aussi. Et donc, ça a pu me donner un départ. Mais il y a eu d'autres choses, c'est les comédies auxquelles j'ai assisté, et puis les lectures de pièces qui me donnaient envie de les monter. Il y avait des pièces... Je suis arrivé à faire à peu près tout ce que je voulais pendant ces 10 ans que j'ai dirigé cette compagnie à Marseille.
La compagnie du Rideau Gris est née en 1930, je crois.
1930, oui. Oui, mais là, elle balbutiait un peu. Ah, mais je dois vous dire que j'étais en classe et j'avais un professeur qui était remarquable, qui s'appelait Henri Flucher. Je dis Flucher parce que ça s'écrivait Flucher. Bon, et c'était un méridional d'adoption dont je pense les grands-parents ou arrière-grands-parents devaient être anglais, parce que Flash, c'est plutôt un nom anglais et ça devient Flucher.
Et alors, il était professeur d'anglais, monsieur.
Oui, et c'était un grand ami de Giono aussi. C'était mon professeur d'anglais. Alors, et très grand connaisseur de la littérature française et anglaise. Bon. Alors, il a traduit pour nous plusieurs pièces, dont un Macbeth de Shakespeare qui a été un de nos premiers très grands succès. Jusque-là, on jouait dans une salle qui était une salle de réunion mondaine, de mariage, etc. À partir de Macbeth, nous avons joué dans un grand théâtre de Marseille qui était le Gymnase, et qui maintenant est un peu décadent, je crois. Mais il a été, s'il ne l'est plus. Enfin, il a eu des passages difficiles. Mais c'était un grand théâtre.
C'est ce jeune professeur d'anglais qui vous a beaucoup aidé lorsque vous avez fait démarrer.
C'est-à-dire, moi, je suis allé vers lui, j'ai dit, écoutez, traduisez-nous, parce qu'il écrivait admirablement, traduisez-nous Macbeth. Et ce qu'il a fait, puis il m'a traduit d'autres pièces. Par exemple, nous avons commencé une qui s'appelait Tout homme. Tout homme était un mystère du XIIIe ou XIVe siècle anglais. Et Everyman, il s'appelait, traduit, c'était Tout homme. C'est Tout homme qui est tout heureux. Un jour, il profite de la vie, il fait beau, etc. Puis il voit un type bizarre qui essaye de lui parler, qui n'est autre que la mort. Et qu'est-ce que je viens faire ici? Ah ben, je viens te chercher. Comment je vais me chercher? Pourquoi? Ben, parce que c'est l'heure. Et il faut que... mais enfin, je vais très bien. Ça n'a rien à voir, etc. Oh, mais tu vas pas m'entraîner de force. Si, je vais t'emmener. Ah. Il dit, écoute, alors laisse-moi vous faire signer à un de mes amis que je ne sois pas tout seul là-bas. Mais tu ne seras pas tout seul. Oui, mais je veux dire, etc. Enfin, vous comprenez le dialogue qui s'instaure. Et puis, il meurt de peur. Il la supplie de ne pas l'emmener. Elle dit, c'est je jouais la mort. Alors, j'essaye de me souvenir au fur et à mesure que je vous en parle. Alors, il cherche un de ses amis. Il lui dit, mais j'ai des amis très sûrs. Je vais sûrement en trouver un qui va m'accompagner. En réalité, dès qu'il leur parle de faire ce voyage avec lui et accompagné par la mort, il dit « Non, j'ai pas le temps, on en reparlera plus tard, si tu veux. » Tout le monde se défile. Et alors il se dit « Mais ça ne fait rien, la femme m'attend et elle viendra certainement pas du tout. » Il a à peine fini sa demande qu'elle est déjà partie. Il se trouve tout seul, là. Et la mort est ennuyée parce qu'elle n'ose pas l'emmener de force. Et à la fin, au moment où il va rester seul et il tremble, il est malheureux, arrive un petit vieux avec des béquilles et qui est je suis bonnes œuvres, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi, tu comprends, je suis là pour t'accompagner. C'est vous dire à quel point c'était une moralité, d'ailleurs. C'était pas tellement un mystère. Et donc, bonnes œuvres l'accompagnent. Et il le rassure, il lui dit, tu sais, bonnes œuvres se souvient très bien de la bonté que tu as témoignée. Un vieux chien malade dont personne ne voulait, etc. etc. Et finalement, ce trio grotesque, la mort en tête, agitant ses lambeaux qui l'habillent, et tout homme suivant prudemment, et bonnes œuvres clopinant à droite et à gauche, s'en vont vers l'éternité. Voilà, donc c'est une des premières choses qu'on ait jouées. Mais après, nous avons étendu à Paris nos auteurs. Enfin, ces auteurs existaient déjà. Et nous les avons simplement leur avons demandé de nous donner des pièces. Et certains nous ont donné des pièces inédites. Par exemple, André Gide, dont on a joué deux pièces, Le retour de l'enfant prodigue, qui n'était pas un dialogue inédit, et puis l'autre était Le 13e arbre, qui était une farce. Une farce d'André Gide, c'est une farce, si on veut. C'est plein de pensées diaboliques. Pas du tout celles auxquelles on peut penser, si on se souvient de Coridon, mais non, pas du tout celles-là. Mais des pensées, disons pas catholique. D'ailleurs, il était protestant, il n'avait aucune raison d'être catholique. Et donc, ça a eu un très gros effet à Marseille, ça, André Gide. Et puis, en rapport avec Cocteau aussi, qui nous a donné Orphée à jouer. Très beau Orphée de Cocteau, moitié plaisantin, moitié grave. C'est une très belle pièce, je ne peux pas vous la raconter parce que je ne ferai que vous raconter des pièces.
C'était une troupe donc de professionnels, vous étiez tous des jeunes professionnels.
Elle devenait insensiblement professionnelle. C'est-à-dire que d'autres villes, en particulier Lyon, s'intéressaient à ce que nous faisions et nous a engagés une fois et puis nous a demandé de revenir et tous nos spectacles pratiquement était joué à Lyon. C'était une dame qui s'occupait d'une société qui s'appelait Les Heures et qui jouait au Théâtre des Célestins. C'est un théâtre qui joue beaucoup et qui est un très beau théâtre.
Pourquoi est-ce que cette troupe s'est appelée le Rideau Gris ?
Parce qu'elle était très pauvre, cette troupe. Et faute de décor, nous avions décidé de jouer devant un rideau. Le seul rideau qu'on avait était gris. Et ça s'est appelé le Rideau Gris. Mais un entrepreneur s'est intéressé à ce que nous faisions et alors nous a acheté un merveilleux rideau gris et argent qui faisait plutôt un rideau de revue à grand spectacle que d'un théâtre très sérieux. Mais quand n'empêche, nous avons employé son rideau qui s'ouvrait et sur des décors très jolis. Et puis nous avons soigné l'élément décoratif très vite. Nous avions un décorateur là-bas qui s'appelait Henri Ray, qui a fait de très jolis décors. Et puis Vakevitch a même fait, je ne sais pas, une dizaine de spectacles avec nous avant de revenir à Paris, parce que pendant la guerre, il était parti en province. Et il est revenu à Paris pendant la guerre aussi, un an après, quand il a vu que c'était possible.
Quand on pense au Rideau Gris, on pense à vous, Louis Ducreux, et puis aussi à André Roussin.
Ah, André Roussin a énormément apporté au Rideau Gris.
Vous l'avez rencontré comment, André Roussin ?
Eh bien, son frère, que je connaissais vaguement, m'a dit un jour, voilà, mon frère est de retour, il a voulu faire du théâtre, il est allé à Paris, ça n'a pas très bien marché, il jouait des rôles, un rôle de jeune premier qu'il a joué avec Alice Cossea. Alice Cossea avait toute la vedette, bien entendu, mais enfin, elle avait le beau rôle aussi, et lui n'avait pas tellement brillé, pas du tout, et son père lui a dit, maintenant, il faut que tu rentres à Marseille et que tu fasses un autre métier, un vrai métier. Et lui avait déjà écrit quelques pièces. Et il rentre à Marseille. Et là, il s'ennuyait, il ne pouvait pas se remettre à faire le courtier, car je crois que c'était un métier de courtier. Et là, il me fait demander par son frère si j'acceptais de le prendre dans ma troupe. Je lui dis, oui, en principe, Il faut l'auditionner. Bon, je l'auditionne et je vois qu'il a des qualités de premier ordre, extraordinaires. On imagine mal à quel point Roussin était devenu, à l'époque, un grand acteur, très jeune, 22 ans, il avait un an de plus que moi, ou de moins, je ne sais plus, peu importe. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, il faut l'employer tout le temps, ce type-là. Et je lui ai proposé d'abord de jouer avec nous une pièce de Supervielle. Quand on jouait Supervielle, il était un très grand poète, avec qui j'avais une grande amitié. Il avait aussi une famille, avec aussi un grand nombre de filles, ce qui égayait les jours que l'on passait chez lui. Et Supervielle, j'adorais vraiment sa poésie. La triste qui nous tient, la claire qui nous suit, la tenace aux yeux noirs qui chante pour soi seule et ne peut nous quitter même pas à demi. Elles ne sont plus là que par leur voix de veuve, comme si vous n'étiez qu'une voix, vous aussi. De leurs jours alarmés, elles viennent à nous, et leurs sombres élans s'enroulent à nos âmes. Mais toujours, leur aveu se défait à nos pieds, puisqu'il n'est pas de mots pour tant d'ombre et de flamme. J'avais souhaité, et beaucoup d'entre nous l'avaient souhaité aussi, des gens qui étaient passionnés par ce que faisait Supervielle, qu'ils soient propulsés un peu par la Nouvelle Revue Française, quand Gallimard, il y a eu une période où Gallimard n'était déjà plus là, où c'est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, qui est très bien, mais qui n'est pas la Nouvelle Revue Française d'autrefois. Et je trouve qu'on n'a pas, on n'a jamais donné à Supervielle la place éminente qu'il mérite. Moi, j'en ai personnellement, enfin, je l'ai beaucoup regretté.
Et vous avez donc monté, avec André Roussin, une pièce de Supervielle. C'était pas La Belle au Bois dormant ?
Non, La Belle au Bois, tout court.
Ah, La Belle au Bois.
Oui.
Alors, avec André Roussin, il y a eu beaucoup de pièces ensemble.
Roussin jouait la cuisinière.
Ah bon ?
C'est le premier rôle que je lui ai donné, parce que je n'avais pas d'autre rôle libre. Il jouait une cuisinière bougonne, très, très amusant.
Vous étiez facétieux tous les deux, parce que j'ai entendu parler d'une anecdote à propos de Macbeth, dont vous nous parliez tout à l'heure.
Nous n'avions pas décidé qui serait Macbeth et qui jouait son ami et moitié ennemi, Macduff. Et alors, on avait finalement pris comme parti de le jouer une fois l'un, une fois l'autre. Mais on ne suivait pas un rythme normal. C'est-à-dire, nous entrions en même temps, comme ça devait être dans la pièce, et le premier qui parlait, il était entendu que le premier jouerait, je ne sais plus si c'est Macbeth ou Macduff, et c'est comme ça que le rôle était distribué suivant les représentations. Il était entendu que c'était ou Roussin ou moi qui jouions l'un Macbeth, l'autre Macduff.
C'était pas très pratique pour les partenaires, peut-être.
Si, parce qu'ils étaient un peu surpris quand ils nous voyaient entrer, et même très attentifs et un peu tremblotants. Dès que le premier avait parlé qu'il était convenu que c'était lui qui était Macbeth, moi je ne le savais pas. Quelquefois je parlais le premier, c'est moi qui jouais Macbeth, d'autres fois c'était Roussin. Donc ça crée une espèce d'émotion, et une émotion n'est jamais mauvaise dans le début d'une pièce.
Je crois que lorsque vous avez travaillé avec Le Rideau Gris, vous avez eu à un moment donné la visite de Louis Jouvet.
Ah oui, oui. Ça c'est parce que nous avions joué une pièce ce jour-là que Louis Jouvet avait joué 4 ans avant, dans laquelle avait débuté, je crois, Jean-Pierre Aumont, j'en suis pas sûr. Et c'est curieux comme ces pièces tournaient souvent autour de la mort, les premières pièces qu'on a jouées. Il y avait un bateau anglais, très, très, avec une marine imposante, ce bateau, il y avait un bateau de croisière, où il y avait des gens qui ne savaient pas d'où ils venaient, ni où ils allaient. Et ils ne se posaient pas la question, c'était sorti de leur esprit, ou même pas entré. Mais ils jouaient aux cartes, ils s'amusaient, ils jouaient à des jeux auxquels on joue sur un bateau. C'est une pièce qui s'appelait en français « Au grand large ».
C'est pendant la répétition de cette pièce que Louis Jouvet est venu vous voir?
Non, Jouvet jouait à Marseille. Il n'est pas venu nous voir, c'est moi qui suis allé le voir dans les coulisses du gymnase, c'est le théâtre du gymnase à Marseille. Et là, il a accepté de venir à notre première mise en scène. Alors ça s'est passé d'une façon, tout le monde avait un trac fou, évidemment. Et nous donnons une scène du premier acte pour l'introduire. Et je sais que sa première réflexion a été « Oui, ça va à peu près bien jusqu'à l'entrée de Louis Ducreux. » Il dit « Bon, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, alors ça ne va pas. » C'est lui qui avait joué ce rôle, alors, en plus. Il m'a dit comment, à son avis, il fallait le jouer, ce dont je me suis fort heureusement inspiré, qui m'a évité peut-être des mois d'études en un soir, parce que Jouvet allait très vite et expliquait très bien. Un an après, j'étais convoqué par Jouvet à Paris, ici. On approchait de la guerre, et il allait faire une grande tournée de propagande en Tchécoslovaquie. Et il voulait que je prenne l'Athénée pour y jouer pendant son absence en Tchécoslovaquie, et c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, mais ça revenait vraiment un peu cher pour nous, et nous ne nous sentions pas tout à fait prêts pour être là. Alors, j'ai esquivé un peu la chose, et je ne suis pas venu jouer. Mais, après la déclaration de la guerre, vous voyez comme les choses sont quelquefois artistement conçues. Je monte ma première pièce, avec un rôle important pour Roussin, et pour moi, je vais jouer le second rôle. Et le hasard fait que je passe au studio des Champs-Élysées. Et là, studio des Champs-Élysées, c'est un tout petit théâtre, vous le connaissez sans doute, mais qui était quand même assez grand pour nous. Et ça a été cette pièce qui était une pièce, non pas prosémite, mais contre l'antisémitisme, parce que j'avais été très touché du fait que beaucoup de mes amis, qui étaient juifs, étaient menacés, étaient vraiment très menacés.
Cette pièce-là, c'était la part du feu, ça a
la
été
la part du feu,
une
oui.
Pièce que vous avez écrite.
Oui, j'ai créé avec lui, et le rôle qu'il jouait, Roussin, était Klapotermann. C'était très difficile pour que la pièce soit acceptée par les autorités allemandes, en principe, parce que tout devait être visé par les Allemands. Mais en le lisant, et même en le voyant, et bien que comprenant très bien le français, ils n'ont jamais senti que c'était une pièce... enfin, qui étaient contre leur politique vis-à-vis des Juifs. Et par contre, le public l'a très bien senti, car ça a conditionné une bonne partie du succès de cette première pièce et qui a fait gagner 10 ans de carrière difficile à Roussin comme acteur, car il s'est imposé là dans un rôle qui scéniquement, dramatiquement est excellent et qui lui a valu l'adhésion immédiate, qui d'ailleurs, du même coup, a entraîné celle de Madeleine Cheminat qui est entrée là-dedans, et moi aussi comme auteur et comme metteur en scène et acteur. Ça nous a fait vraiment, en un coup, ces séances au studio des Champs-Élysées. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise que Renoir était le superviseur de l'Athénée, puisque Jouvet était allé en Amérique du Sud, et pour jouer aussi pour la propagande. Ils sont venus nous voir et nous ont dit « Écoutez, il faut que vous jouiez ça à l'Athénée. » C'est là qu'on se retrouve, dans cette Athénée. avec une espèce de succès triomphal, enfin une chose qui était peut-être en partie due à la pièce, en grande partie à l'interprétation, et pour une bonne part à son orientation.
Vous me dites que c'était une pièce très prosémite, donc vous n'avez pas eu de problème avec les autorités allemandes.
J'ai eu de gros ennuis après. Un an et demi après, lorsque le ministre de la Culture allemand, en Allemagne, a appris qu'il y avait un juif qui avait un rôle sympathique et principal et dans la pièce. Alors là, j'ai failli avoir de très graves ennuis. J'ai répondu à son interrogatoire, j'ai dit, mais enfin, comment pouvez-vous imaginer, avec un ton aussi naturel que possible, que je mette un juif sur scène, enfin, c'est pas possible, messieurs, vous vous trompez, c'est pas... Klapotermann n'abordait pas un non-juif, c'est sur ce jeu-là, n'est-ce pas, Klapotermann était un non, comme ça. Qui était allemand. Il y a des gens qui s'appellent Klapotermann et qui ne sont pas juifs. Bien.
Quoi qu'il en soit, La part du feu, votre première pièce, que vous avez donc montée en 1942, ça a été pour vous-même, dans votre carrière d'auteur, et puis pour André Roussin, dans sa carrière d'acteur, et puis ensuite d'auteur, ça a été le démarrage, ça a été un moment très important.
Oui, ça a été capital. Ça a raccourci de je ne sais combien d'années notre réussite éventuelle.
Je voudrais que vous me parliez des premières mises en scène que vous avez faites avec les pièces d'André Roussin, Amstramgram, par exemple.
Ah, Amstramgram, oui, mais je jouais le rôle principal. Alors, j'ai fait la mise en scène aussi, mais c'était surtout une pièce d'acteur pour moi, celui-là. Ça, c'était une espèce d'inspiration des pièces américaines, vous savez, avec le côté un peu fou, mais canalisé intelligemment pour que tout porte... et que tout soit drôle, car les choses devaient faire rire. C'était Micheline Prell, notre première vedette, qui jouait là le rôle principal de femme. Et ensuite, c'est quelqu'un de tout à fait imprévu, qui l'a joué très bien aussi, personne ne s'en est trop souvenu. Elle s'appelait Svetlana Pitoyev. C'était la fille de Georges Pitoyev et de Ludmila Pitoyev, qui a joué ça aussi bien... Très différent, mais aussi bien que Micheline Prell, qui était irrésistible. Svetlana était plus touchante, c'était autre chose. Mais enfin, les deux étaient vraiment très bien, l'une après l'autre.
Entre André Roussin et vous, Louis Ducreux, j'ai l'impression qu'il y avait une connivence, une complicité assez grande.
Avec Roussin ?
Oui.
Ah, très grande, oui. Mais à ce moment-là, jusqu'à ce moment-là, car après, nos carrières ont divergé. La sienne a été très brillante comme auteur, très très brillante. Et la mienne a bien marché aussi, mais moins, beaucoup moins que celle de Roussin, mais bien quand même. Les pièces que j'ai écrites, généralement, ont très bien donné. Et alors, il y avait une connivence, mais une connivence amicale. Nous ne travaillions plus ensemble, nous étions dans les meilleurs termes, mais chacun travaillait pour soi. Sauf quand il me demandait de faire encore une mise en scène ou une chose comme ça. Ou jouer un rôle dans une de ses pièces.
Louis Ducreux, vous avez fréquenté le salon de Marie-Laure de Noailles et de Charles de Noailles.
Oui, et ça, c'est depuis longtemps. C'était à l'occasion de la création d'une pièce de Huxley que notre ami Henri Fucher avait traduit en français, évidemment. Elle était venue. C'est-à-dire, il y avait tout ce qu'il y avait sur la côte, et il y avait beaucoup de gens sur la côte au mois de février et de mars. À ce moment-là, Marie-Laure avait une merveilleuse maison, lui, elle et son mari, vicomte de Noailles, ailleurs, une très belle maison qui maintenant appartient à la ville, je crois. Mais c'était un être étonnant, Marie-Laure de Noailles, avec un sens du comique comme peu de femmes en ont. J'aurais aimé vous raconter des histoires sur elle, mais j'ai l'impression que ces histoires, ces anecdotes, la diminueraient.
Ce qui est peut-être important de dire, Louis Ducreux, c'est qu'elle avait un salon où elle recevait beaucoup de gens, beaucoup d'artistes.
Oui, disons une table, une excellente table. On déjeunait très bien et les gens s'en allaient très vite. Il n'y avait pas de salon où chacun faisait son numéro. Mais il y avait Poulenc, souvent, qui jouait du piano ou d'autres. Auric aussi jouait du piano. Quelqu'un chantait. Moi, je chantais comme je pouvais. Enfin, si, on s'amusait, mais ce n'était pas un salon comme chez d'autres, n'est-ce pas, où il y a une grande pianiste, pas encore célèbre comme pianiste, mais célèbre comme fan du monde, et jouant très bien du piano, ça on l'a vu, mais pas Marie-Laure, qui n'était pas exécutante, elle peignait plutôt. D'ailleurs, j'ai là des dessins d'elle dans le couloir que j'aimerais vous montrer, qui sont...
Vous m'avez raconté, lorsqu'on a préparé cet entretien, que vous y avez rencontré Max Jacob et dont Poulenc avait fait une mélodie sur des...
Oui, une mélodie assez extraordinaire. Et moi, j'étais là pour déjeuner. Et on me dit, oh, on manque de choristes, on n'a que 4 choristes, il faut que toi et monsieur fassent. Bon, alors, nous avons été choristes, là, d'une sorte de mélodie de Max Jacob, qui racontait une histoire comme ça. À vendre dans le pays de Caux, à vendre magnifiques échos, entre Valoris et Mortagne, entre Valoris et Mortagne. Or c'était comme en des coulisses, notaires, vendeurs et leurs complices, des laboureurs dans tous les coins. Troisième thème. Mais toujours acheter des ruines, des vallées, des monts, l'on se ruine. Il fallut revendre un matin ces échos à ceux du matin. Voilà, c'était à mi-chemin de la plaisanterie, et c'était pas seulement l'humour de Max Jacob, c'était aussi l'humour de Marie-Laure et de Charles de Noailles, qui était vraiment toujours matiné d'une certaine tendresse, d'une certaine bonté, et pas sans puissance, plus d'une fois. Max Jacob en avait. Et là, c'était... Qui avait fait la musique? C'était Poulenc, oui. Poulenc avait fait la musique de Max Jacob.
Vous aimez bien la chanson, Louis Ducreux, parce que j'ai...
Pas seulement la chanson.
Ouais.
Oui, j'aime la musique.
Non, mais vous venez de chanter, là, et j'ai lu dans un article qu'André Roussin avait écrit en parlant de vous. Il chante tout le jour et se met au piano à toute heure. Il peut composer des chansons aux mélodies tristes et émouvantes en plein succès. Et au jour sombre d'un échec, on le trouve encore en train de chanter. Et il arrive que ce soit une chanson très burlesque.
Il disait ça, très gentil et très joli, mais je ne le connaissais pas.
Parce que vous avez composé de nombreuses chansons, alors...
Ah oui.
Comment est-ce que c'est arrivé comme cela, La rue s'allume, La ronde, par exemple?
La ronde, c'est arrivé très simplement. C'est-à-dire qu'il fallait faire la chanson du film.
C'était un film de Max Ophüls.
Comme il y avait un manège, tout ça, c'est La ronde, bon... Alors, j'avais fait une chanson, mais je n'en ai pas fait la musique, ça, c'était Oscar Strauss. Tourne, tourne, mes personnages, la terre tourne jour et nuit. L'eau de pluie se change en nuage, et le nuage tombe en pluie. Honnête homme, canaille tendre, aristocrate ou bien soldat. Quand l'amour vient vous surprendre, entrez en danse d'un même pas. C'est l'amour qui mène la ronde pour la danser main dans la main. La grisette, la femme du monde s'en vont par un même chemin. Il manquait des notes graves pour la pousser jusqu'au bout. Bon, voilà, ça c'était une chanson qui m'a donné beaucoup de plaisir.
Comment c'est arrivé le...
Eh bien, Fulz avait entendu parler de ma pièce, La Part du Feu. Lui-même avait dû s'exiler parce qu'il craignait des avatars très durs. Il est allé en Amérique. Quand la guerre a été finie, il est revenu. Il a choisi de venir en France pour qu'il avait une particulière direction. Et c'est là qu'il a, il a demandé à faire ma connaissance. Il a téléphoné et... Nous nous sommes connus, on s'est très bien entendus, on a travaillé ensemble dans une parfaite communauté d'esprit et avec son admirable don de metteur en scène et de poète, il a fait cette sorte d'opérette, on peut dire, mais qui n'est pas une opérette, qui est une pièce solide, et qui a eu un énorme succès dans le monde entier. C'est peut-être à Paris qu'elle a eu moins de succès.
Petit musée de la chansonnette, une émission de Louis Ducreux, présentée par l'auteur. Avec Denise Benoît, Germaine Montero, Lydie Gérard, Nicole Verville et les voix de Bourville, Fernandel, Mayol et Maurice Chevalier. Avec André Pop et son ensemble, réalisation Gérard Herzog.
Est-ce que si je vous parle, Louis Ducreux, de vos souvenirs de radio, vous avez créé plusieurs séries d'émissions?
Ah oui, ouais. Une émission qui a duré... Oh. Mais que justement, qui a duré 3 ans aussi. Mais
le journal officiel.
Le journal officieux.
Le journal officieux, oui.
Oui, c'était une façon, dans la critique parlée, dans la partie parlée, de présenter les personnages officiels tels qu'ils sont en réalité. Et donc, et de présenter les événements aussi. C'était très dangereux. On était souvent gênés. J'entendais des opinions gênées. Ah oui, mais le fait que l'on... C'était très léger à une époque où les gens aspiraient à la gravité.
C'était en quelle année? 1952-53, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Absolument. 52-53-54-55.
Quel était le principe de cette émission?
Il y avait des chansons, disons... Toutes les 10 minutes, du début à la fin. L'émission durait 1 heure. Elle était notre souci principal pour toute la semaine. C'est pour ça qu'on avait vraiment... Là, je peux dire que pendant 3 ans, je n'ai fait que de la radio.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à la radio? Auteur dramatique, metteur en scène, comédien, et puis...
Oui, c'est sûrement comme ça, mais il y avait là un directeur de troupe aussi... De troupe qui ne marchait pas toujours très bien, mais lui était très bien, c'était Jean-Serge, qui était directeur artistique de la radio rue François 1er. Et c'est lui qui a eu l'idée de me confier une émission de variété, littéraire, si on peut dire, mais pas non plus trop littéraire, accessible. Tout en parlant de choses qui, en principe, est un peu réservée à un certain public, eh bien, c'était là notre besogne, non, mais notre paradis, où on pouvait dire ce qu'on voulait, comme on voulait, et aider de la musique et de la chanson.
Et puis, il y a eu une autre émission, après, qui s'est appelée Le Petit Musée de la Chansonnette.
Musée de la Chansonnette, ouais. Oui, ça, c'est 2 ans plus tard.
Oui.
Avec Gilles Son, qui était vraiment un grand maître de la radio, vous savez, Moi, je le connaissais assez peu comme ami, mais j'ai vu au travail, là, c'était quelqu'un de très, très bien et de rare.
Louis Ducreux, j'ai sous les yeux un article de 1969, écrit par Claude Rostand, qui dit en titre « L'Opéra de Marseille, depuis 10 ans, maillot jaune des théâtres lyriques français ». Beau compliment, vous avez pris la direction de l'Opéra de Marseille en 1960-61, je crois.
Oui, c'est ça.
C'est Gaston Defer qui vous a permis de prendre la direction de l'Opéra de Marseille.
Oui, il y avait un monsieur qui était adjoint aux Beaux-Arts à la mairie. Gaston Defer et lui avaient des opinions complètement contraires, mais ça n'empêchait pas d'être deux collaborateurs remarquables. Et ce monsieur lui a dit, il y a Louis Ducreux qui s'intéresserait à l'Opéra de Marseille. Defer me connaissait également, car je suis marseillais. Je l'avais vu 3 ou 4 fois avant. Et cette idée-là, enchantée, bien. Et il a été pour moi d'un soutien, mais extraordinaire, à partir du moment où il avait choisi ça, toutes les campagnes qu'on a pu faire en disant Ducreux est un monsieur qui fait de l'avant-garde, ce qui n'était pas d'ailleurs toujours la vérité. Et là, il va faire de l'opéra, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient très sceptiques, et il m'a soutenu d'une façon totale, et on disait couramment que c'est une expérience qui durerait 1 an peut-être, après avoir coûté fort cher, pas du tout. Elle a duré 7 ans et a été pour la ville de Marseille, je crois, d'un très bon rapport, si on peut parler de ça, après une saison artistique coûteuse et dans laquelle je lui conserve une reconnaissance qui ne disparaîtra qu'avec ma vie.
Alors pendant cette année, ça a été un travail absolument extraordinaire. Là, j'ai sous les yeux les programmes de la saison 61-62, Don Juan, les Saltimbanques, des concerts classiques aussi, l'Arlésienne. Vous avez monté beaucoup de choses et vous avez souhaité à la fois allier les grands classiques du répertoire et puis aussi monter des choses beaucoup plus modernes, comme Alban Berg, par exemple.
Ah oui, oui. Lulu est une des choses les plus passionnantes que j'ai eu à faire.
Il y a un problème avec Loulou, c'est que le dernier acte n'a jamais été écrit. Comment est-ce que vous avez résolu ce problème-là ?
Eh bien, j'ai pris la solution qui avait été prise en Allemagne, qui était très simple. On l'a réalisé par de brèves lectures, pour laquelle l'orchestre jouait une part importante. Il n'y avait pas que les mots. C'était une alternance de lectures et de mélodies et de symphonies, que dis-je. Ensuite, des vues séparées, et on racontait l'histoire. Et puis après, comme la fin était écrite quand même, cette histoire était chantée par les acteurs. Et on arrivait très bien au bout, et c'était passionnant et même haletant.
D'où vous vient ce goût prononcé pour Alban Berg, qui est l'un de vos musiciens de prédilection?
Eh bien, je vais vous le dire, mais peut-être vous allez être déçus. Il me vient du jour où j'ai entendu Lulu à Berne. Excellent théâtre. J'étais évidemment suffoqué par la musique, mais agréablement suffoqué, c'est-à-dire que ça me coupait le souffle. Et puis, j'ai reçu l'ensemble du message, comme ça, j'ai décidé de le monter à Marseille, 2 ans après, sans avoir pensé une seconde que c'était l'œuvre la plus difficile qui soit au répertoire des opéras. D'ailleurs, les opéras ne la mettent pas à leur répertoire, des opéras de province, en tout cas.
Alors, on ne peut pas citer toutes les œuvres que vous avez montées à l'Opéra de Marseille. On peut dire comme ça Les Mamelles de Tirésias, de Poulenc, Les Malheurs d'Orphée, de Darius Milhaud, Le Médium de Menotti, Don Juan de Mozart aussi. Et puis il y a eu un Carmen qui a fait beaucoup de bruit, je crois, en particulier à cause du décorateur.
Oui, le décorateur était Bernard Buffet, qui était alors au temps de sa révélation. Ses décors avaient à la fois la précision de son dessin habituel et puis la transposition extraordinaire et personnelle qu'il apportait à toute chose. Ça a été pour lui une immense réussite. Et quand je lui ai téléphoné, il m'a dit « Oh oui, mais alors il faut que je fasse exactement ce que je veux. » Je dis « Ça va de soi, puisque nous vous en appelons à vous. » Et en effet, il avait son idée de Carmen, qui n'était pas tellement opposée à celle qui est classiquement excipée. Et en même temps, elle était le contraire, tout en en étant proche. C'était une chose admirable. Et il m'a dit, quand il a vu que j'acceptais, c'est ce qu'il voulait faire, ce qui est très rare chez un metteur en scène. Le metteur en scène veut toujours imposer son point de vue, ou le plus souvent. Et il m'a dit, eh bien, ce sera gratuit. Et quand on sait les tarifs qu'on payait Bernard Buffet à l'époque, vous dire que là, il a donné un geste de générosité qui m'a extrêmement touché et qui m'a permis de monter l'œuvre comme il l'entendait.
Louis Ducreux, tout le monde vous a rendu hommage au bout de quelques années, même assez vite d'ailleurs, à propos de votre direction de l'Opéra de Marseille, qui vous a valu ensuite la direction de l'Opéra de Monte-Carlo. Les critiques, le monde lyrique, qui n'est pas réputé facile. Et puis le public, vous avez fait venir à Marseille un public qui n'y venait pas, c'était le public des jeunes.
Oui, il y avait énormément de jeunes à nos représentations, eux l'ont découvert. Il y avait d'ailleurs un certain mouvement vers la musique lyrique qui se sentait un peu partout. Mais là, ça l'a concrétisé d'une telle façon. Et je n'ai jamais abandonné le répertoire. Je montais le répertoire en mettant en valeur certains aspects, certaines choses qui plaisaient aux jeunes et qui étaient dans l'œuvre. Mais l'œuvre elle-même, vous savez, qui est composée 70 ou 80 ans avant qu'on ne la joue, je parle du répertoire, perd la plupart de sa nouveauté en vieillissant. Alors, justement, cette façon de mettre dans les décors, un peu partout, un élément neuf, et qui est véritablement dans l'œuvre, mais qui n'est pas éclos, parce qu'on le néglige d'habitude, et ça a amené énormément de jeunes au théâtre. Et aussi, alors, les vieux ont cru, se sont mis à croire à nouveau au théâtre lyrique, en dehors même de sa musique, de ses couplets, etc.
C'était La mémoire du siècle de Louis Ducreux. Une mémoire du siècle proposée par Thierry Aveline, prise de son René Cherrier, mixage Pascal Bénard, chargé de réalisation Noureddine Sanoni.
Cette émission a été proposée pour la première fois sur France Culture le 2 août 1991.